OK, ça fait qu'on va continuer dans notre leçon sur la discipline, les disciplines spirituelles, avec la particularité de la discipline d'administrateur ou dispensateur. On avait vu la semaine dernière que dans la Bible, on utilise différents termes pour parler de cette affaire-là. On est des administrateurs, on est des dispensateurs, des intendants ou des économes, dépendamment des versions. Alors, on peut trouver ces idées-là. Alors, on avait vu que les Écritures nous parlent que nous sommes les administrateurs de deux choses en particulier, soit son temps, que nous on appelle notre temps, et aussi son argent, que nous on appelle notre argent. Alors, c'est ses affaires à lui, mais c'est nous qui les administrons. C'est un peu comme quelqu'un qui il se trouve une job et sa job, c'est d'administrer les affaires qui appartiennent à un autre. C'est exactement la même chose avec nous. Alors, on avait vu différentes raisons. Pourquoi on se doit de bien administrer le temps que le Seigneur nous a donné, son temps, qui devient notre temps. La raison numéro un, on les revise très rapidement. La raison numéro un, c'était que les jours sont mauvais. Alors, on vit dans une époque où le diable, la chair, le monde s'acharnent et conjuguent leurs efforts pour nous faire tomber. Alors, on vit dans une époque difficile. La deuxième raison, c'est qu'on se doit de se préparer pour l'éternité. Et la troisième raison, c'est que le temps est court. Je me souviens très bien quand j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, mon père me disait souvent: Tu vas voir, Marcel, la vie passe vite. Des fois, tu la regardes en disant: Ben voyons donc. La seule année, tu te rends compte que, ouh, il avait raison, c'est vrai que ça passe vite. Alors, le temps est court. Troisième raison. Quatrième raison, c'est que le temps s'écoule rapidement. Cinquième raison, le temps qui nous reste est incertain. Veux-tu le savoir, là, peut-être qu'il m'en reste une journée, peut-être qu'il me reste une heure, peut-être qu'il me reste une minute, je ne sais pas. Personne ne le sait. Alors, le temps s'écoule rapidement. Le temps qui nous reste est incertain. La sixième raison, c'est que le temps perdu ne peut pas être recouvré. Ce qu'on a perdu comme temps dans le passé, on ne peut pas d'aucune façon le récupérer. Septième raison, c'est qu'on va avoir des comptes à rendre à Dieu de la gestion de notre temps. Alors, c'est comme si on se présente devant Dieu, puis il va regarder tout le temps qu'on a eu, puis c'est nous, il va nous demander: Qu'est-ce que tu as fait avec le temps que je t'ai donné? Si on a une bonne gestion, on va pouvoir s'en tirer quand même avec un jugement positif, mais si on l'a mal géré, ben c'est comme ça dit dans 1 Corinthiens 3, je pense que ça parle de ça, il lui dit. C'est brûlé. C'est comme tes œuvres ne valent rien à ses yeux. Donc, on était rendu là. On devait rendre des comptes à Dieu. On serait rendu. Ah oui, je voulais le mentionner, c'est parce qu'on était rendu à la raison numéro 7. Le pasteur américain, Jonathan Edwards, le fameux pasteur qui est connu, grand prédicateur, qui a eu des milliers de conversions à cause de ses prédications, Jonathan Edwards. C'était un homme, je dirais, dans les hommes, sur les choses que j'ai connues, dans les biographies, très certainement un des hommes les plus sérieux dans sa vie chrétienne. Lui, à chaque jour, il faisait un inventaire. Il trouvait qu'à la fin de chaque jour, c'était nécessaire d'examiner l'ensemble des choses que tu as vécues au cours de ta journée et de regarder ce que tu as fait de bien et de corriger ce que tu as fait de faux et de confesser tes péchés et de le faire quotidiennement. C'est très rare qu'on voit ça de nos jours. Je pense qu'on aurait intérêt à le faire. Alors, la raison numéro 8, c'est qu'il est si facile de perdre notre temps. On le sait, on a cette tendance-là. Alors, nous ne devons pas toujours nous trouver des excuses plus lamentables les unes que les autres. On est des champions. Quand c'est le temps de se trouver des excuses, on est des champions. Proverbe 26, versets 13 à 16. Alors ici, le Seigneur, il prend l'exemple du paresseux. Le paresseux dit: Le grand lion est dans le chemin. Le lion est par les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge la main dans le plat et il a de la peine à la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que sept hommes qui savent répondre avec bon sens. Alors, autrement dit, le paresseux, pour ne pas travailler, il va trouver toutes sortes de raisons qui sont, qui ont, qui, Proverbe 24, verset 33-34. Un peu dormir, un peu sommeiller, un peu croiser les mains pour se reposer, et ta pauvreté viendra comme un passant, et ta disette comme un homme armé. Le fait qu'il nous semble avoir beaucoup de temps peut nous amener à penser qu'en perdre un peu, c'est sans conséquence. Puis, je dirais que plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on n'a pas de temps à perdre. Parce que plus on se rend compte que peut-être qu'il nous en reste très peu, et plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on a le goût de se sanctifier, on se rend compte de notre misère, de notre faiblesse, et on a vraiment besoin de demander à Dieu, les jours qu'il me reste à vivre, permets que je les vive dans la sanctification, permets que je les vive en t'amenant honneur et gloire. Parce qu'on est conscient quand même qu'on a perdu du temps dans le passé, mais on voudrait arrêter d'en perdre. Donc, raison numéro 9, nous valorisons le temps au moment de notre mort. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans son livre, il donne cet exemple-là. L'écrivain et philosophe français Voltaire, c'est un homme connu, Alors, il se lamentait au moment de sa mort. On sait qu'il a vécu une vie où il doutait de l'existence de Dieu, puis il a écrit des choses, disons, qui n'aidaient pas aux gens à avoir de la foi en Dieu, bien au contraire. Au moment de sa mort, voici ce qu'il disait. « Je donnerais volontiers la moitié de ma fortune en échange de 6 mois de plus de vie. » Probablement qu'il se rendait compte que s'il avait eu plus de temps pour vivre, il y aurait eu des choses qu'il aurait eu le temps de corriger. Il y avait une infirmière à son chevet. L'infirmière qui était présente lors de cette détresse a dit, quant à elle, « Je ne voudrais pas voir un autre infidèle mourir dans cette détresse et ce désespoir pour toute la richesse de l'Europe. » Autrement dit, elle l'a vu mourir. C'est pas la première fois que je lis des choses semblables où des personnes qui sont sur leur lit de mort, qui ont eu des mauvaises vies, apparemment que c'est une misère de les voir mourir. Parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas en règle avec le Seigneur et qu'apparemment que de les voir mourir, surtout si ça dure longtemps, là, comme a dit, je ne voudrais pas voir un autre infidèle mourir dans cette détresse et ce désespoir pour toute la richesse de l'Europe. Ça veut dire que c'était pénible, pas à peu près. Proverbe chapitre 5, versets 11 à 13. Et que tu ne rugisses quand tu seras près de la fin, quand ta chair et ton corps seront consumés, et que tu ne dises, comment ai-je jailli l'instruction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné les réprimandes? Comment n'ai-je point obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient? Et n'ai-je point incliné mon oreille vers ceux qui m'enseignaient? Et la 10e raison, c'est que la valeur du temps dans l'éternité. Notre temps, ce devrait être utilisé pour 2 choses. La gloire de Dieu et notre croissance en grâce. Donc, si on regarde l'ensemble des choses qu'on fait dans une journée, est-ce qu'on fait la chose qu'on fait soit pour grandir dans la grâce ou soit pour la gloire de Dieu, sinon c'est du temps perdu. Luc, chapitre 16, versets 24 et 25. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare y a eu des maux. Maintenant, il est consolé et toi, tu es dans les tourments. » Donc, on a vu très rapidement, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça dans ce qu'on appelle la gestion du temps et ce que le Seigneur nous demande pour bien le gérer. Maintenant, on va passer aux 2e choses que le Seigneur nous demande de bien gérer, c'est l'administration de son ou de notre argent. Le livre que je vous avais montré la semaine dernière, que je vous avais recommandé, qui s'appelle « Votre argent », guide biblique pour nous enseigner comment gagner, dépenser, épargner, investir, donner et sortir de l'enlèvement. sur la gestion chrétienne de l'argent. L'auteur Howard Deaton nous conscientise par la citation suivante à la page 8. Tout ça très intéressant. Il dit, en fait, nos chéquiers en disent plus long sur nos priorités que toute autre chose. C'est pourquoi Jésus a tant parlé au sujet de l'argent. 16 des 38 paraboles ont rapport à la façon de gérer l'argent et les possessions. 16 des 38. Donc, quelque part, ça approche la moitié. De tout ce que le Seigneur a enseigné, ça a un rapport avec notre gestion de l'argent. En fait, Jésus a enseigné davantage concernant l'argent que sur presque tout autre sujet. La Bible offre 500 versets sur la prière, moins de 500 sur la foi, mais plus de 2350 sur l'argent et les possessions. Hey, c'est très significatif. Hein? 500 sur la prière, 500 sur la foi, 2350 versets sur l'argent et les possessions. Le Seigneur a beaucoup parlé de l'argent parce qu'il veut que nous ayons sa perspective dans ce domaine fondamental de la vie. Il a parlé de l'argent parce que l'argent a de l'importance. Alors la Bible nous donne 10 principes que nous devons nous souvenir et mettre en pratique dans la gestion de notre argent. Principe numéro 1, tout appartient à Dieu. Nous autres, on est portés à dire, mon char, ma maison, c'est tout mon. Alors que la Bible dit, tout, sans exception, appartient à Dieu. On est des administrateurs, c'est pas la même chose. C'est pas nous autres qui est le propriétaire. Absolument tout appartient à Dieu, nous ne sommes que ses administrateurs. Psaume 24, verset 1. Psaume de David, la terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent. Exode 19, verset 5. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre les peuples mon plus précieux joyeux, car toute la terre est à moi. Agée, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Nous devons nous rappeler constamment que notre maison, notre auto, nos meubles, notre nourriture, nos livres, nos vêtements, nos terrains et toutes nos possessions appartiennent au Seigneur et que nous n'en sommes que des dispensateurs ou administrateurs. Principe numéro 2. Donner est un acte d'adoration. Philippiens chapitre 4, versets 16 à 19. Et même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une et même deux fois de quoi fournir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Or, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Si on prendrait le temps de l'analyser, ce verset-là, il dit que Dieu accepte les dons, c'est agréable à ses yeux. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses. Faut saisir ce qu'il est en train de dire, là. Deutéronome, chapitre 16, versets 16 et 17. Trois fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il t'aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, et l'on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. Chacun donnera à proportion de ce qu'il aura, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. Principe numéro 3. Donner reflète la foi dans le fait que Dieu pourvoit. Marc 12, versets 41-44. Et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve étant venue, y mit deux petites pièces, qui font un quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus dans le tronc que tous ceux qui y ont mis, car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, l'auteur Donald Whitney raconte dans son bouquin qu'il a connu une personne qui redonnait, un pasteur, je ne sais pas pourquoi le mot n'est pas là, redonnait tout son salaire à son église locale. Il avait voulu faire un test, ce pasteur. Il dit, je vais tout prendre mon argent complet, je vais tout la donner à mon église locale. Alors qu'il n'avait mentionné à personne dans l'église, une femme vint frapper à sa porte pour lui dire que le Seigneur lui avait fortement mis à cœur qu'elle vienne lui livrer une grosse commande d'épicerie. Nous donnerons dans la mesure où nous croyons que Dieu va pourvoir à nos besoins. Principe numéro 4, les dons doivent être sacrificiels et généreux. Un don sacrificiel, c'est quelque chose qu'on fait un sacrifice pour pouvoir donner. Il y en a de moins en moins de nos jours. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5. « Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie, et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Car je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir, et même au-delà de leur pouvoir. Nous prions très instamment de recevoir cet aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Et ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Les enquêtes Gallup aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait de façon régulière et ça a des buts de vérifier, de sonder un petit peu qu'est-ce que les Américains font avec l'argent. Alors ici, on a une enquête Gallup qui nous parle combien les gens ont de revenus et quel pourcentage ils donnent. Alors, voici ce que ça donnait. Les gens qui faisaient 10 000, c'est très peu, donnaient 2,8% de leurs revenus aux dons. Autrement dit, si tu regardes le tableau, ceux qui ont entre 10 000 et 30 000, tu baisses à 2,5. Entre 30 000 et 50 000, tu baisses à 2. Entre 50 000 et 75 000, tu baisses à 1,5. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que plus tu gagnes, moins tu donnes. C'est triste. Parce que ça devrait être le contraire. Plus tu gagnes, plus tu donnes. Principe numéro 5. Donner reflète la confiance spirituelle en Dieu. Luc 16, versets 10 à 13. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Principe numéro 6. Des dons devraient être basés sur l'amour et non le légalisme. Alors, nos dons sont une mesure de notre amour envers Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 3 à 8, surtout le verset 8, il dit « Je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. » Il est en train de parler de l'argent et il dit que c'est par là qu'il va vérifier la sincérité de leur amour. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. « Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire des collectes. » Principe numéro 7, donner volontairement, avec action de grâce et joyeusement. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 et 7. Au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, et non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Principe numéro 8, le don doit être apprécié aux besoins, approprié, c'est-à-dire aux besoins réels. On lit dans Actes 2, « Et tout le monde avait de la crainte, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient les choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. » Donc, le don doit être approprié aux besoins réels. Acte 4, versets 32 à 35. « Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que rien de ce qu'ils possédaient fût à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. » Car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils le mettaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun, selon ce qu'il en avait besoin. Principe numéro 9, les dons doivent être planifiés et systématiques. Il y a... Je le dis par expérience, je le dis par observation. Les dons aux églises, ce sont des choses qu'il y a beaucoup de manquements dans les églises à ce niveau-là. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. « À l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme j'ai ordonné aux églises de Galatie. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire des collectes. » Donc, il y a trois principes qui sont à l'intérieur de ce verset-là. C'est la question de systématique. Chaque dimanche, chaque premier jour de la semaine, c'est ça, chaque dimanche, tous sans exception, que chacun de vous, c'est à tous sans exception, ça, planifié et proportionnel selon sa prospérité. Alors, celui qui gagne 115 000, il devrait donner plus que celui qui gagne 15 000. Il devrait donner même beaucoup plus. On va voir un exemple tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà entendu parler de cette merveilleuse histoire de l'industriel chrétien américain qui connut un immense succès dans les affaires, M. Letourneau. Il était dans l'équipement où on drille pour faire sortir l'huile. Il faisait énormément d'argent. Je vais vous dire comment il donnait à l'Église. 90% de son revenu. Des fois, on parle de la dîme. Puis 10%, on trouve ça tellement gros. Là. Ah, c'est gros, 10%. 90%, autrement dit, il faisait une fortune considérable. Puis il donnait ça pour les œuvres de Dieu partout. Un exemple que, si vous n'avez jamais entendu parler, ça me surprend. Principe numéro 10. De la générosité des dons entraîne l'abondance des bénédictions. Luc 6, verset 38. Donnez, et on vous donnera. Et on donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, et qui débordera. Car on vous mesurera de la mesure dont vous vous servez envers les autres. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré en toute chose que c'est en travaillant. Il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Trois principes que je tire de cette leçon-là, très rapidement. Premier principe, est-ce que nous utilisons le temps que le Seigneur, son temps, de la manière dont le Seigneur veut que nous l'employons? Dans notre travail, à la maison, autour de la maison, dans nos hobbies, dans l'utilisation de la télévision, d'Internet, des médias, dans le respect de l'assistance à tous nos cultes, soirées de prière et dimanche, Oui, oui. Ce soir, on est 6, on serait supposé être 30. Alors, le temps, il y en a qui ne savent pas que c'est plus important d'être ici que d'être ailleurs. Dans le temps accordé au sommeil et au repos, dans le temps accordé à nos devoirs envers la Bible, l'écouter, l'étudier, la mémoriser, la méditer, la lire. Souvent, on va passer 3-4 heures sur Internet, 3-4 heures dans toutes sortes d'affaires, mais on n'a pas 15 minutes pour lire notre Bible. C'est un temps très mal utilisé. Dans le temps aussi accordé à la prière, que ce soit la prière individuelle, la prière de couple, quand elle existe, ou la prière en église encore une fois, quand elle existe. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. À toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour sauter de joie. Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les ramasser. Un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, et un temps pour laisser perdre. Un temps pour conserver, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Autrement dit, on a beaucoup de choses à corriger dans notre gestion du temps. Ayons au moins l'humilité de le reconnaître devant Dieu, qu'on fait pas une gestion toujours sage et qui lui apporte honneur et gloire dans notre vie, qui nous montre que ce qui ne va pas, puis qui nous donne la grâce de changer ce qui a changé. Implorons le Seigneur de nous sonder, de nous montrer nos manquements. Prions-le aussi de nous donner le désir et le faire et la discipline de s'acquitter de tous nos devoirs spirituels pour notre croissance et pour sa gloire. Deuxième application, ça c'est surtout celle du temps, c'est surtout maintenant l'argent. Sommes-nous disposés à accepter et à appliquer tous les principes bibliques dans l'administration de son ou de notre argent? Donnons-nous volontairement, systématiquement, généreusement, avec joie, sacrificiellement et proportionnellement? Combien donnons-nous aux missions et aux missionnaires? Comment répondons-nous aux demandes de soulager la souffrance, la misère et la pauvreté autour de nous? Un bon usage de notre temps est primordial pour notre croissance spirituelle et pour la plus grande gloire de Dieu. Que le Seigneur nous éclaire, nous guide et nous donne de la discipline pour bien s'acquitter de nos devoirs de gestion de notre temps et de notre argent, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.